Je voudrais commencer en racontant, en présentant deux personnes. Ces deux personnes de la favela. Il y en a une qui a la quarantaine. Et il y a 15-20 ans, c'était un dealer dans la favela. Il utilisait pas mal de drogue et du coup ça avait des effets sur lui. Il était violent à la maison avec sa femme. Il parlait de se séparer et ils avaient deux enfants. Quoi, ils ont toujours les deux enfants, mais ils les avaient déjà à l'époque et je pense que c'est un peu ce qui les a aidés à tenir ensemble. Et il y a 10 ans à peu près, il s'est converti au travers de ses enfants qui participaient au projet Casa Rocha. Et aujourd'hui, il est coiffeur dans la favela. C'est mon coiffeur, mais c'est aussi un très bon ami. Et il est toujours avec sa femme. Il est aujourd'hui grand-père. Donc on a vu une situation, une vie transformée. Et donc son nom c'est Nivaldo. Et on a une autre vie, un autre jeune homme que je voulais présenter vite fait. Lui il participe au projet depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 6 ans. Et donc il a participé de tous les groupes, de toutes les activités. On connaît la famille très bien. On fait pas mal de visites à domicile. Aujourd'hui, il a une 20aine d'années. Et aujourd'hui, c'est un des chefs du trafic de drogue dans la favela. Et c'est aussi un bon ami. On entretient une bonne relation avec lui. On a pu avoir plusieurs conversations profondes avec lui au long des années, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il est papa. Mais voilà, sa vie est complètement différente de la première que j'ai présentée. Lui, il a un frère en prison. Il a le deuxième qui a été tué l'année dernière pendant le Covid à cause du trafic de drogue. Lui, il a dû partir de la favela pendant quelques mois l'année dernière parce que c'était trop dangereux pour lui. Aujourd'hui, il est revenu et il continue, il est toujours impliqué, il continue, c'est un des chefs voilà, du trafic dans la favela. Mais c'est bizarre de dire ça, mais un bon garçon, un gentil garçon. Et gardez ces histoires un peu dans la tête et on y reviendra plus tard. Et je voudrais lire quelques versets. C'est dans Matthieu 19, au verset 16. C'est l'histoire du jeune homme riche. Cette semaine, je priais un peu pour savoir quoi partager ce matin. Et voilà, c'est l'histoire qui m'est venue. Donc je vais lire là du verset 16 jusqu'au verset 26. Ouais, jusqu'au verset 26. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, et le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Du coup, on va regarder un peu cette conversation entre le jeune homme et Jésus. On va essayer d'en tirer quelque chose pour nous ce matin. Et donc ça commence quand le jeune homme demande à Jésus « Que dois-je faire de bon ?» Et comme si c'était nous qui pouvions faire le bien par nous-mêmes, par nos compétences. Et la réponse de Jésus, donc il lui dit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Un seul est le bon. Et la réponse de Jésus, du coup, elle remet les choses à leur place, d'entrée. Et quand il dit un seul est le bon, on sait qu'il parle de Dieu. Et il remet les choses à leur place parce que c'est, du coup, il rappelle que ce qui est bon, c'est une personne et c'est pas une action. C'est pas ce qu'on fait qui est bon. C'est Dieu qui est bon. Et c'est Dieu qui est bon en nous. Et il dit c'est un seul est bon. C'est pas un groupe d'hommes qui serait bon, mais c'est un seul, c'est Dieu seul. Et c'est pas par exemple un groupe de chrétiens ou les personnes d'une telle église qui seraient bon, mais c'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui est bon dans cette église, c'est Dieu qui est bon dans les personnes de cette église. Et du coup, Jésus, dans sa réponse, il remet tout ça à plat dès le départ, dès le début de la conversation. Et en portugais, il y a une phrase qui dit « Deus é bom o tempo todo Deus é bom ». Dieu est bon tout le temps Dieu est bon, à chaque instant. Dieu est le seul qui est bon. Et donc là, Jésus, il commence en affirmant une vérité. Et ce qu'il y a de bien dans cette vérité, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. On pourrait se dire, on est tous mal, on est tous mauvais, mais c'est pas une condamnation. Parce que ça nous met tous à égalité. C'est pas par rapport à ce que un tel pourrait faire et l'autre n'y arriverait pas parce qu'il n'a pas les mêmes compétences, qu'un tel serait meilleur que l'autre. Et ça nous met tous à plat. Un seul est bon, Dieu est bon, et nous, on est tous à égalité derrière. Et j'aime bien me rappeler ça parce que au Brésil, le statut de la personne est très important. Des fois, on m'appelle missionnaire Nicolas et je dis non, Nico, c'est bon. Ou on n'appelle jamais le pasteur Élie, par exemple. C'est pasteur Élie. Et le statut est super important. Et d'ailleurs, on voit des églises dans la favela qui s'ouvrent du jour au lendemain parce que la personne recherche ce statut. Et elle ferme pas longtemps après aussi. Mais du coup, c'est bien parce que peu importe ce qu'on fait, il faut se rappeler qu'un seul est bon. Et c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on est bon, mais c'est Dieu en nous qui nous permet de faire ce qu'on fait. Et donc, si on continue là dans la conversation entre le jeune homme et Jésus, donc Jésus lui dit d'observer les commandements et lui il demande lesquels. Ça donne un peu l'impression que le jeune homme il est toujours à côté de la plaque un peu. Il comprend pas vraiment ce que Jésus dit et comme si on pouvait choisir les commandements auxquels on obéit. Et que ça serait ok d'en laisser certains de côté. Mais quand il y a eu les 10 commandements au début, Dieu l'a pas dit, choisissez un forfait, Forfait de 2, forfait de 3, quelqu'un de bien, forfait de 6. Non, il a dit observer les commandements. Et là, Jésus, il lui donne une liste de 6 commandements. Il n'a pas donné les 10. Il lui donne une liste de 6. Et il lui donne les 6 qui ont un rapport avec notre vie dans la société. Je sais pas si vous vous rappelez, les 10 commandements, il y a les 4 premiers qui ont un rapport avec Dieu lui-même. Et après, c'est ceux qui listent là. Tu tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est 6 commandements qui ont à voir avec notre vie dans la société. Et je suis pas sûr que nous ici, on puisse se vanter d'avoir toujours observé ces 6 commandements. Mais le jeune homme, lui, il se démonte pas et il dit, ben ça y est, je les observe déjà. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et Jésus, quand il lui répond, il essaye même pas de débattre avec le jeune homme pour essayer de lui montrer peut-être à certains endroits de sa vie où il aurait failli à un de ses commandements. Dans sa réponse, Jésus, il est plein de grâce finalement et il dit ok, si tu crois que tu as respecté ces commandements, on passe à la suite. Et la suite, ben Jésus il augmente le niveau là, il monte le niveau. C'est va, vends, donne et suis-moi. Et Jésus sûrement il connaît le jeune homme, il sait que c'est un jeune homme riche, qui a plein de biens, et il veut voir jusqu'à quel point il est prêt à obéir. Quelles sont ses priorités au jeune homme? Quelles sont nos priorités aujourd'hui, à chacun de nous? D'abord, qu'est-ce qui serait notre richesse aujourd'hui, si on essaye d'amener ce passage à notre vie aujourd'hui, qu'est-ce qui serait notre richesse? Peut-être des fois on lit et puis on prend un peu à la lettre et on se dit, ben moi j'ai pas plein de biens, donc cette histoire n'est pas pour moi. Mais qu'est-ce qui peut être notre richesse dans notre vie aujourd'hui? Pour certains ça peut être les finances, pour certains ça peut être les biens matériels, pour certains ça peut être le confort qu'on a dans le quotidien. Pour certains, ça peut être la carrière, la position sociale, notre bien-être personnel, notre famille, nos amis. La liste peut être longue. Et chacun de nous, on peut réfléchir à ça, à quelles sont nos richesses, qu'est-ce qui vraiment prend mon attention? Qu'est-ce qui prend mon cœur toute la semaine? Et qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est suivre Dieu? Ou est-ce que c'est ma richesse qui me rend riche? Est-ce que c'est mon confort? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est ma position sociale? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est ma famille? Est-ce que je serais prêt à sacrifier la famille? C'est compliqué, mais peut-être amener ma famille à quitter le confort parce que Dieu me le demande. Est-ce que je suis prêt à laisser mon emploi parce que Dieu me le demande? Et finalement, quand on réfléchit comme ça, cette histoire, elle peut être pour chacun d'entre nous. Et du coup, dans la conversation, dans l'histoire, on comprend quelle était la priorité du jeune homme. Il a pas voulu, ou on ne sait pas après, peut-être qu'il lui a fallu le temps d'y penser et tout ça. Mais bon, sur le moment, il n'était pas prêt à obéir. Et il est parti triste. Et Dieu, il n'est pas contre contre nos richesses. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait une famille. Dieu n'est pas contre le fait qu'on vive dans le confort. Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse avoir des biens matériels. Mais je crois que Dieu, il veut qu'on soit prêt à abandonner notre richesse s'il nous le demande. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Et peut-être que Dieu n'est pas en train de vous dire ça ce matin, je ne sais pas. Mais voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que aujourd'hui, je vis de cette manière. Mais si Dieu me demande d'abandonner quelque chose de ma vie, est-ce que je suis prêt à le faire parce que Dieu me le demande? Est-ce que je suis prêt à mettre Dieu en premier? Et finalement, quand on y réfléchit, ce que Jésus lui demande là, c'est l'obéissance au premier commandement. C'est l'obéissance à le premier commandement, c'est de ne pas avoir d'autre Dieu que Dieu lui-même. Et bah, le jeune homme, il n'était pas prêt à obéir à ce commandement. Et du coup, ça n'a pas fait quelqu'un de meilleur parce qu'il obéissait aux six premiers, aux six autres. Mais on voit que, voilà, que si on continue la conversation, ce que Jésus dit, c'est qu'en gros, il n'aura pas de place dans le royaume de Dieu parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et du coup, est-ce que nous, on est prêt à abandonner nos richesses pour avoir une place dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'on voit ça comme une priorité? Et ce matin, je dis pas ça pour condamner, loin de là, mais parce qu'il y a un encouragement là derrière. Il y a un encouragement, et je crois que voilà, je crois que c'est le thème que Philippe a amené ce matin. Les disciples, ils commencent à avoir peur. Ils se disent, mais alors, si c'est plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille, qui c'est qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? Et du coup, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait là? Alors, si c'est impossible pour nous de rentrer dans le royaume de Dieu, pourquoi on suit Jésus? Et Jésus, il termine par une autre vérité. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et si Dieu veut faire entrer un chameau par le trou d'une aiguille, il peut. Et pour nous, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Et on ne peut pas acquérir le salut par ce qu'on fait. On ne peut pas acquérir le salut par nos actions. Mais pour Dieu, il est possible de nous donner le salut. Et il l'a fait. On ne peut pas obéir à tous les commandements par nous-mêmes. Mais avec l'aide de Dieu, on peut. C'est une marche, c'est un chemin. Hein. Mais on peut, avec Dieu, on peut. On ne peut pas se transformer soi-même de l'intérieur. Mais Dieu, oui. Dieu, il peut nous transformer. Et c'est le chemin de sanctification avec Dieu. On ne peut pas changer la vie de notre enfant. Mais Dieu, il peut. On ne peut pas changer la vie de notre voisin. Mais Dieu, oui. On ne peut pas changer la vie de notre collègue de travail, celui qui nous tape sur le système, mais Dieu, oui. Nous, on n'a pas changé la vie de Nivaldo. Vous vous rappelez le coiffeur, la première histoire? Nous, on n'a pas changé sa vie. Dieu l'a changé au travers du projet de Casa Rocha. Il a utilisé ceux qui étaient prêts à l'époque à abandonner, à répondre à ce que Dieu avait demandé. Et il a changé la vie de Nivaldo au travers de ces personnes. Mais c'est pas ces personnes qui ont changé Nivaldo. C'est Dieu lui-même qui a changé Nivaldo et qui continue aujourd'hui de transformer sa vie. Et nous, on va continuer d'avoir ces conversations avec le jeune homme qui dirige le trafic de drogue dans la favela. Nous, on va continuer de prier pour lui. Mais nous, on va pas changer sa vie. On va pas pouvoir changer sa vie. Mais Dieu peut. Dieu peut. Et on espère, on croit qu'il le fera. Et nous, on ne peut pas être les rois de l'univers. Mais Dieu l'est. Dieu est le roi de l'univers. Et il veut nous faire participer de son royaume. Il veut qu'on soit avec lui. Il nous donne le privilège de marcher avec lui et de faire partie de son royaume. et de faire avancer son royaume, mais pas parce que nous, on est qui on est, mais parce que Dieu est en nous. Et c'est un peu la méditation que je voulais apporter ce matin. C'est un encouragement, c'est pas une condamnation, c'est vraiment pour nous rappeler que on n'est pas meilleur que les autres, pas ce qu'on fait, mais on est tous à égalité, et s'il y a quelque chose de bon en nous, c'est Dieu lui-même. Amen. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écouté, et merci encore une fois pour tout votre soutien, et si vous avez des questions sur la mission au Brésil, on peut discuter après le culte. Merci.